Avant de commencer votre podcast de Pâques, sachez que vous pouvez nous envoyer vos remarques, critiques, souvenirs, témoignages, tomates et autres en fichier audio ou en bafouille écrite à l'adresse cosmicbeast@jmx.fr. Nous les passerons en prochain répondeur d'Entre Geeks. Vous remarquerez sans doute un son un petit peu différent de nos autres épisodes dû à des micros de médiocre qualité. Et oui, vous aussi, montez des pneus de vélo sur une Ferrari. Bon, on va espérer que ça ne va pas gâcher votre écoute du podcast. Alors, bonne écoute et puis surtout, joyeuse Pâques!
For millions of years, Earth was fertile and rich. Then pollution and waste began to take their toll. Civilization fell into ruin.
Welcome to man's most magnificent achievement in the conquest of space. The man-made planetoid, Space Academy, founded in the star year 3732.
Bienvenue, très chers auditeurs RIS, sur Entre Geeks, le podcast des œuvres oubliées, mais pas oubliables. Nous sommes arrivés à Pâques. À Pâques, c'est les œufs, c'est tout un ensemble de choses.
Oh, tu m'avais promis de passer les fêtes de Pâques avec moi!
Je sens que vous me voyez arriver. Généralement, entre geeks, culture pop, vous pensez que je vais vous parler de Alien, parce que dans Alien, il y a des œufs. Eh ben, pas du tout. Figurez-vous, rappelez-vous, dans un lointain passé, avec ce très cher Danny, nous avions parlé de...
Miracle sur la 8e rue.
Miracle sur la 8e rue. Et miracle sur la
8e rue.
Miracle sur la 8e rue était un film que nous considérions pour Noël. Ce soir, nous allons vous parler d'un film que mon invité et moi-même considérons comme un film de Pâques. Vous en avez souvent entendu parler, vous l'avez souvent entendu en lancement des podcasts d'Entre Geeks, mais aussi dans les petits jingles de fin d'épisode. Je suis dans son milieu naturel. Je vous prie d'accueillir pour cet épisode, fait à la maison, sur un canapé, ma voisine de canapé. Bonjour voisine de canapé.
Bonjour voisin de canapé.
Est-ce que tu as envie qu'on fasse un podcast ?
Oh oui, alors.
De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, comme on vous en a parlé, on va vous parler d'un film que nous considérons comme étant un film de Pâques et qui, justement, vous m'avez entendu parler des liens avec le film dont nous avions parlé de Noël, à savoir Miracle sur la 8e rue. Eh bien, tout simplement, nous avons envie de vous parler ce soir d'un film de 1985. Ce film, c'est le film Cocoon de Ron Howard.
From the farthest corner of a distant galaxy and the deepest feelings of a human soul comes a fantasy to fill your heart.
I feel tremendous. I'm ready to take on the world! Ow! Ow!
It is everything you've dreamed of.
Alors, voisine de canapé, Cocoon de Ron Howard de 1985, ça parlerait de quoi?
Alors pour moi, ça parle de personnes âgées en Floride. On voit un petit groupe, notamment trois guélurons qui s'amusent et qui vont souvent à la piscine à côté dans une villa qui est abandonnée. C'est leur petit moment favori. Et suite à quelques événements, il y a des cocons, on peut dire, hein, au fond de l'eau. Parce que la villa, elle n'est plus du tout abandonnée. Elle est occupée par des pêcheurs, amateurs, ou on ne sait pas trop encore.
On ne sait pas, justement.
Qui ramènent justement ces cocons au fond de la piscine. Et les petits papis, eh ben, ils continuent quand même à aller se baigner. Et découvrent des super pouvoirs. Et là, ça commence.
Et voilà, c'est un film où vous avez des personnes qui sont véritablement en fin de vie. Ils vivent dans un espèce... Alors, est-ce que pour certains, c'est avec des chambres médicalisées. Pour d'autres, on va dire que c'est dans des pavillons en autonomie. On est à la fois la mélange entre l'EHPAD et la villa de placement. En fait, on est vraiment dans un espace où les vieux sont accueillis. On est en Floride. La Floride, aux États-Unis, c'est véritablement l'endroit où les personnes qui ont un tout petit peu d'argent vont finir leur vieux jour. C'est quasiment une tradition où vous êtes véritablement au soleil, vous venez réchauffer vos vieux os. Alors évidemment, ça coûte une fortune. Et là, on s'aperçoit que les trois principaux, bon, on va dire, je pense qu'ils n'ont pas de problème financier, mais c'est surtout... Comme tu le faisais remarquer à un moment quand on le regardait, oui, eux, ils ont leur propre maison. Ce qui veut dire que peut-être qu'eux ne sont pas totalement en difficulté et encore une autonomie. Comme ma voisine de canapé vous l'a dit, il y a une villa à côté, une piscine, des choses au fond d'une piscine. Alors, les cocos, ils ressemblent à quoi ?
Des énormes cailloux.
Des énormes cailloux qui font bien dans les... 1m20, 1m50, que justement ces fameux voisins viennent démarcher un type qui est au bout de sa vie, qui est un espèce d'arnaqueur, qui vit d'expédients. La petite Amérique que vous avez, qui a un bateau pourri et qui fait faire le tour de la Floride à des touristes qui le payent, qui peuvent, et qui donc a énormément de problèmes. Et donc, le jour où il est quasiment au bout de sa vie, il y a 4 personnes qui arrivent et lui louent pour 27 jours son bateau. Son bateau, ils partent, ils vont plonger, comme ma voisine de canapé vous en a parlé, une vingtaine de cocons, progressivement au cours du film, vont être remontés. Vous vous dites, bon, ok, c'est quoi ? Est-ce qu'on dévoile tout de suite la personnalité de ces entre guillemets pêcheurs ?
Non.
Non.
C'est un peu...
Alors on va progresser. C'est un film avec tous les vieux acteurs que vous ne voyez pas. C'est des personnes qui ont eu une carrière qui est colossale. Donc déjà par exemple de ces 3 hommes, vous en avez un, c'est Don Ameche. Don Ameche, il est né en 1908. C'est un très vieil acteur. Au moment du film, il doit avoir un âge certain.
77 ans.
77 ans. Ayez toujours quelqu'un qui sait calculer à côté de vous. C'est toujours pratique. Petit clin d'œil à Chris Yokigami, à qui il demande de Oli de calculer quel âge il a. La vieillesse, c'est moche. Et pas que dans ce film. Donc, 77 ans, vous avez Don Ameche qui, je n'ai jamais vu quelqu'un, il n'est pas voûté, il est sec comme un clou, il bouge encore bien. Et puis alors, on le voit directement arriver des années 50, il a encore une petite moustache, il est fringant, il est beau, il est même, allez, on va le dire, il est gentleman. Qui est-ce qu'on a également, ma voisine de canapé, dans ce film ?
Ben, nous avons Wilford Brimley.
Alors, Wilford Brimley, qu'est-ce qu'on aurait de particulier à dire, mis à part qu'il a une magnifique moustache ?
Il ne fait pas son âge.
Il ne fait pas son âge. Alors, quel âge il avait quand le film a été tourné ?
51 ?
Ouais, 51. Il est né en 1934. Alors, en fait, il avait 50 ans. lorsque le film a été tourné. Donc, en gros, dans le film, il va jouer un vieillard grabataire, alors qu'en fait, quand je le regarde, ben figurez-vous qu'il est plus jeune que moi. Bon, moi, ça me rassure, c'est que je fais visiblement, alors je demande toujours à mon juge de touche, voisine de canapé, est-ce que je fais plus jeune ou plus vieux que lui ?
Bah, plus jeune.
Ah, merci. Bon, d'accord, tu ne dormiras pas sur le canapé ce soir. Qui est-ce qu'on a également qui prend tout l'écran, qui est une incarnation tout à fait diaphane, que justement on avait vu dans Miracle sur la 8e rue, qui nous avons également.
Jessica Tandy,
Madame Miss Daisy et son chauffeur, mais aussi un des personnages attendrissants et magnifiques de Miracle sur la 8e rue. Quand vous la regardez à l'écran, vous avez l'impression de voir quelqu'un qui est hyper fragile, un espèce d'ange. Vous voyez les veines à travers sa peau. Et véritablement, c'est quelqu'un de super doux. Mais quand elle sourit, voilà, c'est une femme magnifique qui, déjà à l'époque, un âge plus que certains. On a également qui ? Si on dit qu'on a Jessica Tandy, qui est-ce qu'on a également ?
Hume Cronin.
Et c'est qui ?
C'est son époux.
Et oui, c'est son deuxième époux depuis 1942. Ben oui, parce que tous les deux, en fait, c'est un couple qui a eu une vie. Voilà, vous essayez une fois, puis le deuxième coup, ça marche. Et donc, ils ont vécu ensemble. Ils ont été mariés de 1942 jusqu'au décès de Jessica Tandy en 1993. Donc ça veut dire qu'ils ont vécu 51 ans de vie commune. Mais on reviendra aussi là-dessus. On a également quelqu'un pour moi qui symbolise tout Broadway, toute cette période-là de la danse. Vous avez Gwen Wardon. Gwen Wardon, pas tout simplement, ça a été quelqu'un qui a vécu pendant des années avec Bock Fosse. Donc c'est quelqu'un qui vient directement de Broadway. Vous l'avez vu dans Cabaret. Pain when they do the mumbo. Who's got the pain when they go erp? Who's got the pain when they do the mumbo? I don't know who. Do you? Who needs a pill when they do the mumbo? Who needs a pill when they go erp? Who needs a pill when they do the mumbo? I don't know who. Vous l'avez vu dans plein de films. Et elle, en fait, c'est la personne, la vieille, enfin, pardon, la personne âgée. Je vais dire la vieille, mais en fait, qui est encore apprêtée. C'est la prof de danse et en même temps de tout le foyer des anciens. Elle les fait se bouger et elle est magnifique. Évidemment, elle sera le love interest de Don Ameche. Et en fait, oui, c'est un film où vous avez les couples sont appareillés. On a des personnes aussi qui peuvent être intéressantes. Maureen Stapleton. Donc, c'est également des personnes qui ont une longue, longue carrière au cinéma. On l'aura moins vu. Et puis, surtout, on a un colosse d'1m90 avec des yeux bleus. It's hard to know who to trust. J'ai cherché dans le dictionnaire le mot mâchoire carrée. Figurez-vous, il y avait sa photo. Cette personne-là, ma voisine de canapé, c'est qui ?
Brian Dennehy.
Brian Dennehy, oui, c'est cette espèce de colosse grand, fort, qui est pas, c'est pas, comment dire, un mec musclé. Non, c'est un colosse, c'est le type, vous le regardez, il a une masse et il est carré. Et quand il sourit, oui, il sourit, mais c'est le type que vous avez vu, qui était le shérif qui courait après Rambo dans le film Rambo. Oui, j'ai oublié la date de réalisation du film Rambo, mais je suis quasiment sûr que vous me laisserez le message sur le répondeur d'Entre Geeks. le podcast des œuvres oubliées, mais pas oubliables, pour me redonner la date que, évidemment, j'ai oubliée.
Allô, entre geeks, j'écoute.
Alors, Jack Gelford, ce personnage, il est intéressant d'un certain point de vue. Il joue Bernie Lefkowitz. Donc, le personnage, on va dire que, tel qu'il est décrit, Bernie, comme ça, c'est typiquement le petit juif new-yorkais, avec ce que ça implique. Les petites lunettes, la façon de parler, vous vous attendez à la voir avec le petit accent yiddish, il est avec sa femme Rose. Lui, ce personnage dans le film, il symbolise quoi, ma voisine de canapé ?
C'est la tendresse envers sa femme, c'est toute l'attention qu'il met, et voilà, c'est le couple uni jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive.
Mais c'est surtout aussi la personne où sa femme Rose est atteinte, on va dire,
d'Alzheimer,
elle ne sait plus trop, elle est vraiment, sa santé est vraiment déficiente. C'est de tous les vieux du film, mis à part Hugh Grenin, qui a des problèmes de santé, et on le voit, mais comme elle ne fait quasiment jamais de bruit, si vous apercevez pas qu'elle est malade jusqu'au moment. Et en fait, Jack Gelford, donc Bernie, ben, c'est la personne qui a peur. C'est la, voilà, il ne faut pas aller à l'encontre des choses. Il faut pas. Il va se passer quelque chose dans la villa à côté. Mais pour lui, non. Pour lui, ce n'est pas naturel. Et en même temps, il surprotège sa femme. Et ben, limite, il décide un peu pour elle. Il en est même étouffant. C'est le protecteur, uni jusqu'au bout. C'est la personne qui lui aura retiré toute autonomie. Bon, vous allez me dire, c'est quand même pas marrant comme film. Alors, qu'est-ce qu'on a comme particularité et de petits trucs où on a un film avec des personnes âgées? On a au moins des personnes qui, pour ceux qui n'ont pas plus de 50 ans, oui, je sais, j'ai plus de 50 ans. Et alors ?
J'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon. Je peux pas te faire de peine, mais t'as oublié de mettre ton pantalon.
Donc on a des personnes, des trentenaires. Les deux trentenaires qu'on voit le plus à l'écran, c'est qui ?
Alors, on a déjà un homme qu'on a vu dans plusieurs films, Steve Guttenberg.
Alors, mis à part le fait qu'il ait une tête d'imprimeur, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ?
Ben, il a toujours un peu le rôle de roublard. Enfin, roublard, pas méchant en fait, hein, mais... Voilà, c'est le mec qui essaie de s'en sortir dans la vie. On l'a déjà vu dans Police Academy.
Alors, est-ce que je m'avance en disant qu'il en a fait la plupart ?
Je crois aussi, mais...
Donc déjà, là, on est en 85. Il doit au moins avoir deux Police Academy derrière lui. Quasiment la même année, 85 ou 86, normalement, il doit être également dans un autre film... que peut-être, entre geeks, le podcast des œuvres oubliées, mais pas oubliables, vous parlera. Un film que ma voisine de canapé et moi-même aimons pas mal, avec une histoire de robot qui se prend la foudre.
Oui, Johnny 5, Johnny 5.
It's the ultimate soldier.
It doesn't get happy, it doesn't get sad, it doesn't laugh at your jokes.
It is quite simply
Jen.
The most sophisticated robot on Earth.
At Nova Robotics, the future is in good hands.
You're doing real good. Just keep working on those last two bars.
Thanks to Dr. Newton Gross.
Johnny Five. Donc ça, ou en anglais, en langue de Shakespeare, Short Circuit. Un film qu'on pourra faire. Si vous cherchez la filmographie de Steve Guttenberg, il a plus ou moins échoué du côté de Asylum. Je crois qu'un de ses derniers films, direct ou vidéo pour les plateformes, ça devait être Tarantula ou un truc comme ça. Un espèce de Sharknado, mais avec
des tarentules.
Spiders! I saw spiders the size of men painting on hoods and spitting fire out of their mouths.
Alors, on a ça. Et puis, Évidemment, on est dans les années 80. Il faut un peu de malgaz et non pas de merguez, même si le résultat est le même, puisque généralement, ça va agiter la merguez. Qui est-ce qu'on a dans ce film ?
On a la fille d'une célèbre actrice, qui a la beauté de sa maman, quand même, on peut dire.
Qui a le grain de peau, qui a le nez de sa maman, qui a le bronzage.
Oui.
À mon avis, elle prenait très bien le soleil et elle n'a pas de marque de maillot. Sa mère est, on va dire, une des spécialités fromagères du cinéma d'Hollywood, la très célèbre Raclette Welch.
Nous partons au sommet pour déguster la chouchoute des soirées d'hiver entre amis, c'est la raclette, un plat chaleureux qui nécessite avant tout évidemment un bon fromage. Betty Lachgar a été le chercher pour nous à Avrécieux.
Salut mes amis, bienvenue à la maison. On quitte le sud, direction le nord, au menu Welsh. Pour les éléments, il n'y en a pas beaucoup. Le principal sera le fromage cheddar. Celui-ci est vieilli, mais peu importe. Jambon blanc, tranché, artisanal, toujours la même adresse. Nous sommes trois œufs, moutarde forte et bière blonde. Pour le pain, je n'ai pas trouvé de pain de mie, mais j'ai trouvé du pain de campagne de la veille. Ça devrait faire l'affaire.
Oui, c'est contractuel. J'avais promis, je ferai ça. Non, en fait, c'est Raquel Welch. Et donc, c'est Tani Welch. Qu'est-ce qu'on pense de Tani Welch ?
Elle est jolie, mais c'est pas, elle ne perce pas l'écran.
En gros, elle est juste là pour « Sois belle, tais-toi ». Soit le love interest de Steve Guttenberg. Et voilà. Après, elle a quand même une des scènes que je trouve les plus humoristiques. Mais on y reviendra. On pourrait continuer à vous faire la liste des personnes qui sont dans ce film. Bon, sachez qu'il y a des personnes qui ne parlent pas beaucoup, dont notamment Tyrone Power Jr., qui est juste là, qui doit dire en tout et pour tout une phrase dans le film. C'est pas important. Très chère voisine de canapé, évidemment, avant qu'on nous en fasse un petit procès, et on va peut-être pas passer sur lui, le réalisateur de ce film, il est un petit peu connu.
Ron Howard, oui.
Ah oui, d'accord, mais alors, bêtement, tout le monde va nous dire Ron Howard, c'est Willow, c'est Backdraft, c'est Apollo 13. D'ailleurs, petit coucou à Circe, c'est un de ses films favoris. Et Circe, vu les circonstances actuelles, et le thème du film, on va dire que ce podcast, il est aussi un peu pour toi. Revenons à nos moutons, plutôt à notre Ron Howard. Ron Howard, ça a été quoi pour nous qui étions des spectateurs de Télé Luxembourg ? Et là, évidemment, vous aurez de nouveau le jingle de Télé Luxembourg. RTL, télévision. Donc, c'était qui, Ron Howard ?
C'était Richie dans Happy Days.
Richie Cunningham. En fait, tout le monde regardait Happy Days plus pour Fonzie. Lui, Richie, honnêtement, il était un peu lisse. Il est un peu à la manière de son personnage, un grand front. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans ce film-là, Ron Howard est quand même un bon fils. Pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi ?
Moi, je ne sais pas.
En fait, c'est Ron Howard, dans ce film, donc monsieur au grand front et à la casquette qui est devenue totalement emblématique, eh ben, c'est un bon fils parce qu'il fait travailler son père, sa mère et son frère dans ce film. Ron Howard, évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est un grand réalisateur. Mais c'est quand même un petit peu... Allez, est-ce qu'on peut le considérer comme étant un faiseur, généralement ? C'est quand même quelqu'un qu'on a appelé en extrême urgence pour terminer un film Star Wars, le fameux film Solo qui était dans ce qu'on appelle un development L. Vous savez, les films qui posent tellement de problèmes qu'on vire le réalisateur, on vire le scénariste, on en reprend un autre, etc. Et puis, au bout d'un moment, il faut sortir le film et on appelle quelqu'un à la rescousse. Pourquoi je parle de development L et pourquoi je parle de Feather ? Est-ce que tu sais qui était prévu pour faire, pour réaliser ce film à l'origine ?
Non.
Bonne réponse. En fait, tout simplement, si je te dis Robert Zemeckis, ça te dit quelque chose ?
Ça me dit quelque chose, oui.
Mais encore ?
Éclaire-moi.
Alors, avec le peu de puissance de mon sex appeal, non, d'accord, il fallait que je le fasse, c'est normal, je ne suis pas une lumière. Non, ben, Robert Zemeckis, on le connaît bien.
Non, je t'expliquerai ça tout à l'heure, c'est pas le moment.
Mais c'est moi ! Ça alors, je ressemble à un vieillard.
Bonsoir, je me présente, Dr. Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la propriété.
Dieu merci, j'ai encore mes cheveux.
26 octobre 1985.
Qu'est-ce que j'ai sur le dos ?
Ça va être tout simplement Roger Rabbit, tout simplement.
Vous avez une idée trompeuse de moi, Monsieur Valiant. Je ne suis qu'un pion sur l'échiquier, tout comme Roger.
Robert Zemeckis, c'est à la poursuite du diamant vert. Justement, pourquoi il n'a pas fait ce film ? C'est que tout simplement, ben, Michael Douglas l'avait débauché pour faire À la poursuite du diamant vert. Robert Zemeckis, allez, c'est Retour vers le futur, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Ça tombe bien, c'est pas un podcast sur Robert Zemeckis. Vous aussi, faites comme moi, sortez-vous des mauvais pas avec une pirouette. Pourquoi est-ce que c'est un film de Pâques, finalement ? On l'a dit, nous on le considère, pourquoi ? Tu en as un peu parlé, c'est parce qu'il y a des cocons et qui ressemblent à des œufs. Cocons, œufs, film de pop culture, film de geek, vous me voyez arriver, vous vous dites, ça y est, il y a quoi dans les œufs ? Eh bien oui, dans les œufs, il y a deux possibilités, hein, de toute façon, quand vous êtes dans un film de geek, quand il y a des œufs, c'est soit des dinosaures.
Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter.
Soit
des aliens.
Et oui, il y a des aliens. Et ces aliens-là, ce qu'on va découvrir au cours du film, c'est que il y a fort longtemps, au large du ce qui sera la Floride. Ben oui, devinez qu'est-ce qu'il y avait. On convoque le thème de l'Atlantide. C'est ça qui est bien, hein, avec les scénaristes, généralement. Bon, allez, qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé ? Ah, ben oui, l'Atlantide. Ah oui, forcément, l'Atlantide, un continent oublié, une île oubliée, qui est visiblement une grande civilisation, alors qu'on aurait mis partout. Hein. Alors, du temps des Grecs, elle était passée les colonnes d'Hercule, donc probablement au niveau des Canaries. On a dit qu'elle se trouvait en Méditerranée. Après, on a même dit qu'à une époque, l'Atlantique se trouvait au niveau du Sahara. Quand vous êtes scénariste de pop culture, que vous soyez en BD, en feuilleton ou en film, vous le mettez au niveau de l'Atlantide, parce que Atlantide et Atlantide, ah bah super, c'est pas mal. Donc, au large de la Floride, il y aurait l'Atlantide. Et là, on reboot avec nos voisins qui ont la villa abandonnée, à côté, leur piscine qui vont pêcher des choses dans la mer, ça serait-il pas qu'ils auraient un lien avec ces cocons ?
Eh oui, ils les ont laissés là il y a 10 000 ans.
10 000 ans. Alors voilà, c'est en gros, bon, ils ont fait un calcul, ils se sont dit, bon bah, 2 000 ans, c'est pas trop tôt, oui, allez, on va mettre l'Atlantide à 10 000 ans. Donc visiblement, ces extraterrestres viennent de l'étoile, enfin d'une planète autour d'Antares. Alors, j'ai fait mes recherches Wikipédia. Antares, c'est une étoile binaire. Vous avez une géante rouge et une géante bleue qui se trouve à 550 années-lumière. Eux, visiblement, reviennent à cet endroit-là. C'est une opération de sauvetage. Et donc, cette opération de sauvetage, ils sont là pour sortir les cocons de l'eau. Alors vous allez me dire, oula, bah ça y est, les extraterrestres, c'est un peu compliqué. Quel rapport avec nos petits vieux ? Bah, les petits vieux, tout simplement, le rapport, c'est qu'il y a la piscine. Parce qu'ils mettent comme le disait ma voisine de canapé, et mettre les cocons dans la piscine. Mettre les cocons dans la piscine, pourquoi ?
Pour pouvoir se reprendre de l'énergie.
Voilà, parce que tout simplement, ces personnes, ces extraterrestres, qui sont, c'est toujours amusant, on est dans les années 80, ils sont blancs caucasiens. Voilà, on est aux États-Unis, c'est vrai que ça aurait été un peu plus compliqué de mettre des personnes racisées. Une femme, je pense que voilà, enfin, quelqu'un qui a une enveloppe féminine. Donc, ils mettent leur cocon au fond de la piscine pour les, entre guillemets, bah, c'est un peu comme quand vous avez des graines, vous savez, quand elles sont déshydratées, bah, vous les réhydratez pour pouvoir les faire revivre. Donc, il y a à peu près, à la fin du film, une vingtaine de cocons au fond de cette piscine. On a donc une piscine, une maison de retraite qui est à côté, et nos trois joyeux lurons, comme disait ma voisine de canapé, ben, qui aiment bien faire le mur. Pourquoi ? Ben, parce qu'on est en Floride et il n'y a pas de piscine dans leur maison de retraite. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils font le mur, il y a une villa abandonnée et puis ils vont se baigner à côté. Le début du film, la piscine est vide parce qu'elle n'a pas encore été rachetée. C'est leur petit moment de sortie. L'eau est froide. Bon, ben voilà. Ils vont faire quelques longueurs, etc. Ils s'entretiennent. C'est, vous savez, c'est un peu le moment de faire le mur comme quand on est gamin. C'est ils font les 100 coups. On est des mauvais garçons. Arrivés de ces quatre personnes qui louent Rubis sur l'onde, la villa. Donc ils se disent, ben mince, on va plus pouvoir avoir accès à la piscine. Et puis quand même, ils vont y revenir. Parce qu'ils voient qu'ils sortent des trucs du bateau. Ils disent, oula, c'est des trafiquants. Bon, bah, si c'est des trafiquants de drogue, rappelez-vous, hein, on est en Floride. Bah, finalement, si on peut aller, si on peut voler un voleur, allons-y. Et ils se rebaignent dans la piscine. Et qu'est-ce qui se passe ?
Là, plus de douleur.
Plus de douleur, ils se sentent mieux.
C'est le paradis.
I feel tremendous. I'm ready to take on the world. Ow! Ow!
Et en plus, ils se sentent en forme à tout point de vue. D'ailleurs, la première chose qu'ils font quand ils sortent de la piscine, et là, ce film est pas mal parce que c'est vraiment le sujet tabou qu'on n'ose pas imaginer. Voilà. C'est quoi ?
Ils font des plaisanteries sur le sexe et notamment sur leur érection.
Sur leur érection, tout simplement. Voilà. C'est le sujet tabou de la sexualité des seniors. Et donc, ils vont rentrer et puis, ben, ils vont aller voir leurs femmes respectives en disant « On a des lits séparés. » Bon, ben, aujourd'hui, non. On ne va pas faire de lits séparés. Donna Mesh va, ni plus, ben, va aller se présenter devant la danseuse. Et le troisième va rejoindre sa femme sous la douche en lui disant, en faisant une réflexion graveleuse, en lui disant, est-ce que tu veux pas du sucre d'orge ? Je ne vous fais pas un dessin, vous regarderez vos livres de reproduction des miels, du miel des abeilles et des fleurs, et puis vous chercherez sucre d'orge. On va pas vous apprendre comment on fait des bébés. Si on repasse sur le bateau d'autre Steve Guttenberg qui cabotine, honnêtement, et puis qu'on est dans les années 80 et qu'il a un bateau qui est pourri et qu'il a une charmante jeune fille sur le bateau qui, évidemment, ben, quand elle remonte, de remonter les cocons, prend sa douche et se change. Qu'est-ce qu'on a comme scène qui est... Allez, on va dire que c'est un peu le money shot. Alors, le money shot, c'est souvent la scène qui a coûté le plus d'argent et puis vous allez garder en tête. Enfin, il y a un money shot dans le film, et c'est lequel ?
Ah, bah on a le droit au striptease de la jolie petite brune.
Alors, on a Elle retire, alors lui a un trou dans son bateau et regarde sa cabine. Elle retire le haut. Vous savez, c'est comme la pub de l'époque. Aujourd'hui, je retire le haut. Demain, je retire le bas. Voilà. Donc, elle retire le haut. Elle retire le bas. Puis, on est filmé au niveau des pieds. Oh, elle a retiré sa culotte. Et là, vous voyez son œil vicelard. Et elle se tourne vers lui. Bon, elle ne le voit pas. Hein. Elle ne voit pas que lui, il est en train de la mater. Hein. Parce que, évidemment, c'est amateur. Elle porte sa main au niveau de la tête. Et là, que se passe-t-il ?
Bah là, elle enlève carrément son enveloppe corporelle.
Elle fait un striptease intégral. Voilà. C'est que ce sont des extraterrestres un peu lumineux, relativement proches au niveau du design des extraterrestres. C'est quoi ? Mélange entre E.T. et Rencontre du Troisième Type, mais oui. Plus sexy.
Oui.
Voilà. Avec des énormes arcades sourcilières, hein, ceci dit. Et voilà, vous avez la scène où il commence à cabotiner en disant elle n'est pas normale, elle n'est pas normale. Et puis, les autres lui disent, ben, tu sais quoi, on en est aussi. Vous faites quoi ? Il est au milieu de l'eau, il saute de son bateau, il se dit, non mais je suis en pleine mer, ils ont mon bateau, bon ben, je retourne sur le bateau. On lui dit, mais t'inquiète pas, tu seras bien payé. Voilà, et puis finalement, il se dit que, voilà. La petite Kitty, comme il l'appelle, en plus chaton, finalement, même si elle a une enveloppe corporelle. Le film va continuer, les extraterrestres continuent à remplir la piscine, les petits vieux continuent à venir se baigner. On a un des personnages qui a un cancer, il va miraculeusement être guéri. On est vraiment dans l'analogie de la fontaine de Jouvence. C'est la deuxième chance. C'est en ça aussi que pour nous, ce film est intéressant. C'est véritablement voir la maladie, la déchéance. Vous avez une scène au tout début du film, quand il commence à faire le mur, il passe devant une chambre et vous voyez quelqu'un qui, l'équipe médicale, est en train de s'affairer autour d'un lit. Et, bon ben, vous savez que c'est les derniers moments. On pourrait vous faire, par le menu, le déroulé type Wikipédia du film. On ne va pas le faire, on va juste vous donner envie de le regarder. C'est parce que c'est un film qui est prenant, qui m'a arraché. Et moi, il m'a arraché des larmes, parce que vous avez des parallèles, parce que vous avez un certain nombre de choses. C'est un film qui pose aussi, je trouve, des questions dont on vous donne une nouvelle chance. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que, par exemple, on vous dit qu'il existe un endroit où vous avez la possibilité, non pas de rajeunir, mais de ne plus avoir de douleur, vous n'aurez plus de maladie ? Déjà, vous avez un énorme secret. Autour de vous, vous êtes dans une maison de retraite où il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ont peut-être plus de problèmes que vous. Est-ce que vous allez partager ce secret ? Il faut aussi se poser la question. Ce secret-là, ce don précieux, ce cadeau qui peut être surnaturel, extraterrestre ou autre, ce cadeau que vous faites, est-ce que vous ne le prenez pas à quelqu'un ? Parce que cette piscine, elle est là pour sauver des personnes qui sont restées sur Terre il y a 10 000 ans, pour que, lorsque l'Atlantide a sombré, ceux qui étaient en place puissent partir. Vous savez, c'est toujours les personnes qui disent « partez devant, on ferme les... » Enfin, bon, je ne vous fais pas un dessin. C'est le trope, enfin, les poncifs habituels de plein d'œuvres de fiction. Vous laissez des gens derrière vous. Là, dans ce cas-là, c'est une équipe de sauvetage qui vient... Comment dire ? Sauver ceux qui se sont sacrifiés pour les autres. Vous êtes dans la position de... Voilà, il y a quelque chose qui est là pour les sauver. Est-ce que... Moi, je ne peux pas en profiter. Mais vous, quand vous prenez ça, quand vous prenez ce don, est-ce que ce n'est pas à la fois de l'égoïsme ? Est-ce que tu en...
Moi, je me dis, oui, autant le partager.
Autant le partager. Mais en même temps, on sait que on risque de... On le partage, mais en même temps, c'est déjà... un partage, c'est déjà un vol, entre guillemets, de ceux qui sont là, parce que eux sont là pour sauver leur pareil, alors que là, ils arrivent, bon, c'est vrai, ils leur disent, vous inquiétez pas, il y a peu de personnes qui le sauront. Bon, spoiler alerte, dans le film, le secret va être éventé. Et c'est toujours compliqué de se dire, voilà, c'est miraculeux. Alors, il y a des scènes qui, moi, m'arrachent des larmes. Vous avez un parallèle entre deux décès.
Quand je pense au temps qu'il a fallu pour énergiser la piscine, et maintenant sa force vive en est complètement évacuée, je ne vais pas pouvoir les ramener.
Quand j'ai quitté Max, c'est sûrement ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Ah, oh, Bernie.
Ah, ton médicament. Je vais te le chercher.
Tiens, voilà. Rose. Rose, tu t'es endormie? Rose? Rose. 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 J'ai tellement de peine.
Le premier décès, quand on ouvre le... un des cocons où justement ben, la piscine a été drainée de toute son énergie, vous avez un moment déchirant où vous avez, je crois que j'ai jamais écrasé autant de larmes sur un animatronique qui est en train de crever, parce que pendant tout le film, la plupart du temps, c'est les effets spéciaux qui sont faits par ILM, bien lumineux, tout beau. Alors les extraterrestres, souvent, ça, si je reproche ça au film, ils sont quasiment christiques, vous les voyez un peu comme des anges. Sauf que là, ce moment-là, ben, il n'a plus d'énergie dans son cocon. Il est en train de mourir. Et vous le voyez, c'est même le moment où Brian Dennehy, à ce moment-là, voit son personnage, voit un de ses semblables qui est en train de mourir de vieillesse. J'ai l'impression que, tel que c'est présenté, leur civilisation ne connaissait pas la mort par la vieillesse comme ça, parce que vous voyez, nous, on a l'habitude des rides, on a l'habitude de la peau creusée, les taches brunes, vous savez, ou en dessous du menton, la peau qui se creuse, etc. C'est, voilà, la vieillesse, les rides, etc. La peau qui est un peu tannelée comme ça, les beaux visages de nos seigneurs. Et là, ben, vous avez vraiment... ben, l'extraterrestre est en train d'agoniser et il y a un moment où il relève la tête, il a envie de dire quelque chose et il retombe. Et vous voyez le mastodonte de Brian Dennehy qui est en train d'écraser une larme, parce que là c'est un moment où vous voyez vraiment, il le joue, ouf. Et parallèlement à côté de ça, ben, on parlait de Bernie. La petite Rose, celle qui faisait pas de bruit, celle que quasiment, en plus dans le film, vous la voyez qui a quasiment pas de dialogue, vous la voyez un peu bébête, ah oui, ah ben, elle se rappelle plus du nom des gens, elle confond les personnes, elle a plus toute sa tête, et puis elle est sur le lit, elle lui dit, ben, tu sais, la plus belle chose de ma vie, ben, c'est que j'ai rompu avec un tel et que je suis partie avec toi. Et elle lui demande ses médicaments. Il va dans la salle de bain, il lui ramène le médicament. Il revient, et puis c'est fini. Et vous avez ces deux parallèles comme ça qui vous font vous poser la question. Ben, c'est quoi la vie? C'est compliqué. Alors oui, ben, c'est vous écraser autant de larmes sur la petite Rose qui est partie comme ça sans un bruit. Et puis à côté, vous avez le truc qui a attendu, au bout de 10 000 ans. Et c'est un film qui est tendre, c'est un film qui est qui est une bonne grosse chialade, quoi. Et voilà. Et puis ben là, je vais aller me moucher. Hein. Et puis parce que je vais mettre la tête sous la douche pour pas qu'on voit que je pleure. Des moments humoristiques, ma chère voisine de canapé, pendant que je me mouche.
Ah ben, c'est aussi quand on les voit, les petits papis, vu qu'ils sont en pleine forme, ben, ils décident d'aller danser. Et ben, c'est l'époque du hip-hop. Mmh. Et puis là, on voit... Alors, c'est lequel des trois qui danse?
C'est Don, ouais.
Et on le voit là, et il commence à nous faire un super breakdance, mais vraiment endiablé.
Et il fait même un magnifique moonwalk. Alors, évidemment, c'est pas Don Ameche, parce qu'elle est filmée au niveau du corps. C'est pas ses pieds, on voit pas ses pieds. Mais néanmoins, juste pour le principe, vous le voyez comme ça, c'est pas mal. Et voilà. Oui, ils en profitent parce que à un moment, vous les voyez au thé dansant, avec tout le monde dans la salle à plus de 60 ans, même les gens qui jouent. Parce que c'est leur monde, parce que là, c'est les chansons de leur époque. Ah ben c'est vrai que c'est pas mal. Et puis après, ben c'est la fontaine de jouvence. Et ben ils ont envie de rentrer dans le monde et puis juste de montrer que oui, c'est des vieux croutons, mais pas tant que ça.
Ils vont au bowling aussi.
Ils vont au bowling et ils arrachent tout.
Ah oui, ils ont le trophée et tout. Et là, c'est magnifique pour eux. Quoi. Ils revivent, je pense, peut-être aussi leur jeunesse quelque part.
Tu m'avais fait remarquer aussi quelque chose, justement, avec un des personnages. Est-ce qu'il n'y a pas des moments qu'on pourrait dire des moments qui sont méta? Grodin, donc Joe Finley, qui, donc, je vous le rappelle, jouait dans Miracle sur la 8e rue et le mari à l'écran et dans la vie avec Jessica Tandy, on nous fait comprendre que sa nouvelle vitalité, bah, il va tromper sa femme. Avec une serveuse d'un marchand de glace, je pense. Grodin, ce très cher Joe Finley, en fait, après le décès de Jessica Tandy en 1993, s'est rapproché, il a refait sa vie. C'est logique. Il faut arrêter de dire que lorsque un être cher qui vous entoure s'en va, il faut arrêter de dire je ne vivrai que pour lui. Non, je vous le dis honnêtement, il faut savoir refaire sa vie. Il faut donc lui, il a refait sa vie, et donc avec une actrice avec qui il avait tourné dans les années 80.
Message de service d'Entre Geek. Et non, Suzanne Cooper n'était pas une actrice, c'était une écrivaine de livres de fantasy et de livres jeunesse. Ils avaient travaillé ensemble au scénario de Foxfire, une scène de Broadway pour laquelle ils ont fait une série avec Jessica Tandy en 1987-1988. Donc, pas d'actrice, mais il aurait été lu, on ne saura jamais.
Peu de temps après le décès. Donc, on s'est posé la question, et justement, c'est un moment méta où justement ils rentrent, parce qu'ils sont sortis du bowling, ils disent je vais aller boire 2-3 verres, et en fait, ils recroisent la serveuse, et donc on les voit repartir, etc., ensemble. Et après, il est fin content, etc., ils rentrent le soir, et Jessica Tandy est sur le seuil de la porte et lui dit non, bah, c'est bon, toi tu rentres, tu vas te coucher là, moi je vais dormir chez ma copine. C'est la version senior de « je rentre chez ma mère ». En fait, on s'est posé la question, si ce n'était pas un moment méta où justement Grodin, voilà, parce qu'il y a un discours du « c'est pas la première fois que tu m'as trompé ». Alors, c'est peut-être juste le hasard. Après, ça a un moment de scène où justement, j'ai toujours bien aimé voir les couples au cinéma, qui sont souvent des vrais couples, surtout ces deux couples-là, parce que justement, là, vous voyez qu'ils ont des routines de vie, et c'est toujours intéressant. Alors, Est-ce que je vois peut-être quelque chose où il n'en a pas ?
Bah, c'est touchant aussi quand tu vois, alors c'est le conducteur. C'est le prénom.
Dans le micro.
Dans le micro, oui. Le conducteur, c'était qui déjà ? Comme il s'appelle ?
C'est celui qui ne fait pas son âge et qui est plus vieux que Wilford.
C'est Walter.
Wilford,
oui. Alors, lui, c'est assez drôle parce que c'est le conducteur pour tout le monde. Hein. Et visiblement, c'est le seul qui a encore les capacités de conduire. Et avant de se baigner dans l'eau de jouvence, et ben, il avait eu un retrait de permis parce qu'il n'arrivait plus du tout à lire les tableaux qu'on a chez l'ophtalmo. Et donc, on lui a retiré son permis. Et suite à ces baignades répétitives, il a retrouvé une vue de jeune homme. Quoi.
Voilà. Tout à fait. C'est qu'il repasse son truc et le petit dit, mais vous avez lu 4 lignes. Celle tout en bas. Et là, le type est obligé. Il est obligé de regarder le tableau tout en bas. Il s'approche et même limite, je crois qu'il aurait même pu lire le copyright ou l'endroit où ça avait été fabriqué. Vous savez, les toutes petites lignes, toutes petites que vous avez sur ce genre de tableau. Est-ce que c'est un film agréable ?
Très agréable.
Est-ce que c'est un film qui t'a fait pleurer ?
Ah oui.
Alors, est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre ?
Je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais en tout cas, ça nous questionne beaucoup.
C'est un film qui nous questionne beaucoup parce que c'est du gros sabot, souvent américain. Néanmoins, et c'est pour ça que nous avions envie de le mettre en parallèle, de faire un Noël miracle sur la 8e rue et ce soir Cocoon, c'est que c'est une réflexion tout simplement sur l'âge. Parce que des acteurs, en fait, les films, j'ai l'impression, se répondent et oui, c'est compliqué d'être ancien. On va vous raconter un peu notre vie personnelle. Nous vivons dans ce qu'on appelle un chalet. Nos murs sont à la rigueur plus fins encore que du papier de cigarette. Nous habitons au premier étage. Et nous avons au-dessus de chez nous un pépé.
Oui.
Figurez-vous que nos voisins se plaignent parce que... il a sa vie et que lorsque sa copine vient, il réveille tout l'immeuble. Écoutez, oui, nous sommes dans une civilisation où le tabou ultime, c'est la sexualité de nos seniors. Bon, voilà, je vous laisse avec ce genre de réflexion. Non, réellement, c'est des films où justement, alors ce n'est pas le fait qu'on commence à vieillir ou qu'on a des difficultés ou on sait qu'un jour, soit nous deux, soit l'un d'entre nous, aura des difficultés d'autonomie.
Oui, moi je me questionne effectivement face à parce que j'ai une sclérose en plaques et que bon là je marche, je suis valide, mais après la vieillesse, voilà, ça nous met devant un peu, ça nous reflète un peu ce qu'on va devenir plus tard.
Et ça sera aussi la question de comment l'accepter, comment tout simplement le gérer. Le valide quand il doit prendre s'occuper du... Et c'est aussi la question, à un moment dans le film, moi je vais vous poser une question. On vous propose d'abandonner toute votre vie, vos proches. On vous propose de partir, de ne plus souffrir, de ne plus être malade. Mais vous ne reviendrez plus jamais sur Terre. La question qu'on leur pose justement à ces seniors, c'est est-ce que vous voulez partir ? Certains disent oui, certains disent non. Je sais que je vous bassine tout le temps avec le répondeur d'Entre Geeks, le répondeur des œuvres oubliées, mais pas aux oubliables.
Allô, Entre Geeks, j'écoute.
Moi, j'aimerais juste vous poser la question. Si on vous pose cette question-là, Voilà, vous abandonnez tout, mais vous allez partir, vous allez être mieux, vous partez de la Terre. Est-ce que vous accepteriez ? Parce que, bon, voilà, c'est que... Est-ce que c'est un contrat à la Faust ? Vous abandonnez tout ? Moi, j'avoue que depuis des années de SF, etc., il y a une partie de moi-même qui me dirait « Oui, pars, tu ne souffriras plus et puis tu vas découvrir. » Puis après, vous vous dites « Ben oui, mais il y a encore des gens autour de moi. Ça va être les enfants, ça va être la famille, ça va être les amis. » Alors, il y a un des personnages dans le film qui répond ben, « Tu sais, vu comme la vie a été chienne avec moi, il y en a un autre qui dit « Mais bon, justement, c'est Donna Mesh. Moi, je trouve que c'est le personnage le mieux. C'est un ancien marin de la marine américaine. » Et il dit « Mais l'homme a toujours été un découvreur, même à notre âge. » Et vous voyez, c'est qu'en fait, c'est l'acteur le plus vieux du film et c'est celui qui pépille encore le plus. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est moi qui parle toujours trop. J'ai donné mon avis avant tout le monde. Ma voisine de canapé, toi, qu'est-ce que tu ferais ?
Alors moi, je serais un peu la rabat-joie. Je pense que je terminerai ma vie avec mes proches, mes amis... Parce que c'est comme ça que ça doit être.
Moi, j'irai chercher du tabac du côté d'Antares. 553 années-lumière. Hein. Donc, si vous portez maintenant...
Hein. Alors, avant de partir, on n'oublie pas que...
Le tabac, c'est à vous. On en viendra tous à vous.
Voilà. Écoutez, je vous le dis réellement, je vous lance ce message-là. On a dit, c'est un film qui est attachant. C'est pas un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut dire qui nous a agacé dans ce film ? Parce que, voilà, on va pas lui mettre 20 sur 20. Le film, il est loin d'être parfait. Qu'est-ce qui nous a agacé pendant ce film ?
Un peu le parallèle, ça fait un peu référence à la religion.
Très religion. On est très, très américain.
Les aliens sont des
anges. Oui, alors là, il y a des moments... Il y a des choses que je ne comprends pas. Donc, ce sont des extraterrestres plus ou moins lumineux dans une enveloppe. Comment dire ? Ils ont une enveloppe humaine, donc un peu une histoire de peau ou un truc un peu bizarre. Mais ils vont plonger avec leur enveloppe de peau, avec des bouteilles. Déjà, je me dis, je ne comprends pas. Puis après, vous les voyez, quand ils n'ont pas leur enveloppe de peau, ils peuvent voler. Vous avez une scène hallucinante où, justement, nos trois vieux découvrent les extraterrestres sans leur peau. Il y en a un qui traverse la piscine en volant. Mais après, vous ne les revoyez plus voler. Moi, c'est des petits moments de rupture comme ça qui me sortent un peu du film. Qu'est-ce qu'on a encore qui est un peu gavant ? Allez, on va parler comme les Jones. What's that grave ? Ça devait être les jeunes des années 80, je crois qu'ils ne le disent même plus. La petite bluette entre le Kitty et Bonheur. Alors Bonheur, rien que le nom de l'appeler Bonheur, to have a bone, c'est en gros avoir un os dans son trois pièces cuisine. Donc ça, c'est Steve Guttenberg, celui qui a une tête d'imprimeur, qui se nomme comme ça. Donc vous avez la Kitty, la fille de Raquel Welch et lui. Et vous avez une scène d'amour extraterrestre où elle lui partage l'énergie.
Kitty, quand je suis avec vous, je me sens bien, c'est fou. Je vous fais le même effet, moi ?
Quelquefois.
Vous n'avez pas envie que ça aille plus loin ?
Non, en tout cas, pas comme vous pensez. Je ne peux pas.
Oh, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais comment un Antarien exprime son affection ?
On partage nos forces.
Super !
Vous voulez essayer ?
Oui.
Ça apporte la plénitude ?
Mais elle lui partage son énergie avec son costume humain. Comme ça, petit moment de rinçage d'œil, de tout. On ne voit rien, mais bon, c'est suggéré, donc ils sont dans la piscine. Elle lui envoie son énergie, et la scène est longue, parce que son énergie, rebondit sur le toit, etc. Et ça fait, bon, c'est long, pour finalement venir exploser sur Steve Guttenberg. Ça fait un peu de l'espace, oui, je sais, éloignez les enfants, je suis graveleux, je m'en excuse. C'est un peu long. Et je trouve aussi que d'avoir mis une bolluette, ça casse le film, parce que justement, est-ce qu'il fallait, parce que comme il y avait tous les petits vieux, on se posait la... Est-ce que le public allait dire « Oui, mais il n'y a que les vieux, ça ne va pas plaire ».
Oui, il fallait rajouter une petite touche. Déjà, la belle-fille, ouais. Voilà.
C'est des moments qui m'ont fatigué. Comme je le disais aussi au début du podcast, c'est que avoir encore l'Atlantide, avoir encore les civilisations extraterrestres qui étaient là il y a 10 000 ans, j'avoue que c'est un biais qui est un peu facile. Les grands anciens, les anciens d'astronautes, et qui étaient là au moment de l'Atlantide. Bon, il y a un petit truc rigolo, c'est que visiblement Walter, joué par Brian Denny, il dit oh ben, je fais une erreur tous les 10 000 ans. La dernière fois, c'est ma précédente erreur, c'est d'avoir choisi l'Atlantide. Mettre notre base. Il m'avait dit le pôle Nord, mais le pôle Nord, il fait froid. Oui, ben c'est sûr que la Floride... Enfin, ceci dit, je me pose la question, s'il y a 10 000 ans, au niveau de la Floride, je ne sais pas comment était le climat. 10 000 ans, on était peut-être en climat tempéré. Bon, ben écoutez, très chers auditeurs de Entre Geeks, le podcast oublié, mais pas oubliable. Oui, je sais, je suis obligé de le dire. À chaque fois, c'est automatique. Ben vous vérifierez, peut-être qu'on devait être à la sortie des aires glaciaires et peut-être qu'au niveau de l'Atlantide ou de la Floride, le climat était tempéré. Nous avons parlé de Steve Guttenberg, celui qui a une tête d'imprimeur, avec sa bluette, avec la fille de Raquel Welch. Est-ce qu'on n'a pas des moments qui sont un peu hors du film, notamment avec un personnage, un petit gamin ?
Ben, le petit-fils.
Oui, David, ouais. David, au fond de toi-même, quand tu vois ce personnage-là, on sait typiquement, c'est le garçon dans un film américain typique de Spielberg et d'autres réalisateurs. Il est révélateur de quoi, ce genre de petit gamin ?
Bah, c'est toujours le petit garçon qui est passionné d'astronomie, qui ne vit que pour ça, finalement. Mmh. Et puis, bah, forcément, dans ce film, il se passe quelque chose en rapport avec l'espace.
Tout à fait. En fait, la première scène du film, c'est lui qui est dans sa chambre avec son télescope en train de regarder l'espace. Et c'est quasiment lui qui clôture le film, puisque celui qui lance le dénouement, pour bien nous rappeler qu'il y a une éclipse lunaire où il doit se passer quelque chose, c'est lui qui lance là parce que sa mère lui dit « Tu attends l'éclipse ». Il y a aussi un moment qui est très important. Il est très Spielbergien comme gamin parce que probablement mère qui l'a élevé seule. Les grands-parents sont là. on voit qu'il y a des relations un petit peu particulières. Il ressemble un petit peu. Il est un peu écrit. Moi, je trouve qu'il est un peu écrit comme le petit garçon Elliot de E.T. Cette relation où il a des relations très lointaines avec les adultes. Et là, évidemment, bon, bah, après, c'est le passage de la génération. Ça, c'est tous les gamins. Tu préfères ton papa ou tu préfères ta maman ? Non, non, je préfère papy et mamie. Parce qu'eux, ils me donnent des bonbons. Et puis, ils me donnent la pièce. Bon, voilà. Mis à part cette blague-là, en fait, ce gamin-là, bah, c'est un petit peu l'enfant star aussi des années 80. Parce que, figure-toi, si je te dis qu'il a tourné dans une Only... Alors, 1-2-1-2, si je te dis qu'il a tourné dans un film allemand de 1984, alors attention, je vais essayer de parler allemand. Ça va être compliqué. Ne me jetez pas des tomates. Die unendliche Geschichte. Est-ce que tu sais ce que c'est ?
L'histoire sans fin.
Est-ce que tu es capable de me chanter la chanson ?
Non.
Story. Et voilà. Un autre cheval vient de mourir avec ma façon de chanter. Je me disais bien que je le connaissais. Figure-toi, est-ce que si je te parle d'un film qui s'appelle Daryl, ça te dit quelque chose ?
Oui, avec... Non, je ne sais pas si c'est La Sirène ? Non.
Non. Alors, c'est un... Non, Daryl, non. C'était bien essayé, mais non.
Je ne sais pas.
Non, Daryl, en fait, c'est un gamin avec probablement un ordinateur dans la tête, surdoué, création du gouvernement américain, qui, en fait, va prendre la fuite. Mais c'est un film assez particulier. Si je te dis que ce film, pour moi, il est super important, parce qu'il y a un super avion supersonique dedans. Non, ce n'est pas Supercopter. Il prend la fuite avec un avion un peu particulier. Est-ce que tu sais lequel que c'est ?
SR-71.
Le Blackbird SR-71. Alors... Petite mise en contexte, ma voisine de canapé en a marre que je lui parle du Lockheed Blackbird SR-71, un avion espion qui était jusqu'à encore maintenant un des avions les plus rapides au monde puisqu'il volait à Mach 3.5.
Utilisé par l'armée américaine pour des missions de surveillance et d'espionnage, le Blackbird avait la particularité de voler très haut et très vite. Au-delà de Mach 3.
On l'aurait vu donc dans l'histoire sans fin, on l'aurait vu dans Daryl, on l'aurait vu dans Cocoon et Cocoon le retour, et puis on l'aurait aussi vu dans le petit court-métrage de Tim Burton, dans Frankenweenie. C'est lui le propriétaire du chien à qui il arrive un accident façon puzzle. Ce personnage-là, à ton avis, au niveau des scénarios, du scénario et des scénaristes, est-ce qu'il n'est pas là pour donner un peu envie, au moins à rattacher les téléspectateurs à l'histoire ? Parce que oui, comme je l'ai dit, on ne fait pas un film que sur des vieillards, surtout à l'époque. Est-ce que la fonction là, est-ce que c'est pour plaire au public des plus jeunes ? Est-ce que tout simplement, ce n'est pas un gamin un peu Spielbergien, un peu, comment dire, un misfit en dehors de la société qui a du mal à s'intégrer ? Et qui n'est bien qu'avec son grand-père et sa grand-mère.
Dans son monde, oui.
Son monde, un petit peu. Et puis, je trouve que la scène, moi, que je trouve bizarre et que le gamin cherche à partir avec ses grands-parents. Alors, est-ce qu'il cherche à partir dans l'espace ? Est-ce qu'il cherche tout simplement à... parce qu'il est peut-être bien avec eux. J'avoue que la façon dont le film est est filmé à ce moment-là au niveau du scénario, je me pose vraiment la question. Dernière chose, au niveau de l'analogie du bateau, tu m'en as reparlé et c'est vrai qu'il faudrait qu'on revoie un peu cette scène-là. Lorsque David et ses grands-parents, quand ils leur annoncent qu'ils vont partir, on a une scène quand ils sont en train de pêcher. Est-ce que tu n'avais pas l'impression, et bon, c'est souvent désamorcé, qu'il est en train de leur dire qu'il va partir, tu sais, papy et mamie vont partir, ils vont aller dans un endroit où ils n'auront plus faim, ils n'auront plus froid, ils ne vieilliront plus. C'est un petit peu comme quand on explique à un gamin, tu sais, Toby est parti, il est parti à la ferme, etc. Ou tes grands-parents sont partis, ou ton papy et ta mamie sont partis. Maintenant, ils ne souffrent plus. Il y a un moment d'humour où le grand-père lui dit « Non, je pars dans l'espace. » Mais il y aura toujours ce moment-là où est-ce que tu n'as pas l'impression quand même que la scène du bateau, est-ce que c'est pas un peu le Styx, quand tu es emporté par dans le charron sur le fleuve des morts. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Si, parce qu'en plus, ils partent et il n'y aura pas de retour.
J'avais pas fait gaffe à l'époque. Ce que tu as remarqué une chose, c'est que lorsque la soucoupe volante arrive et qu'elle prend le bateau, on continue à les voir, on les voit. La porte se referme, on ne les voit plus à l'intérieur. Il y a un geste d'un des extraterrestres qui fait coucou visiblement à des gens à l'intérieur. On leur dit, comme s'ils disaient « Salut, on vient, ça y est, on remonte dans le vaisseau, la porte se referme. » Alors, est-ce que c'est une volonté scénaristique de « On ne vous montrera pas ce qu'il y a à l'intérieur. » Mais en même temps, c'est que lorsque la porte est refermée, voilà, c'est que nous-mêmes, on n'est plus dans le monde-là, on n'a plus à voir. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Bah, c'est en dehors de la Terre, donc oui, c'est... Voilà, fermer les portes, on n'est plus là.
Le passage est refermé, un peu le passage des bords où nous sommes restés sur Terre et eux sont déjà dans un autre monde. C'est pour ça que ce film, Cocoon, il y a souvent, j'ai l'impression, une double lecture entre la vie, la mort et pas mal de choses. Est-ce que c'est juste par esthétisme qu'on ne montre pas ? Est-ce que c'est juste pour faire des économies d'effets spéciaux ? Parce que, évidemment, la fin... de l'arrivée de la maquette, etc., au-dessus de l'eau, avec le brouillard qui arrive. Là, oui, il y a beaucoup d'argent. ILM s'est fait plaisir. Vous avez plusieurs arrivées de soucoupes volantes qui sont emblématiques dans le cinéma. Vous avez Rencontre du troisième type, vous avez E.T., vous avez, c'est une décennie plus tard, Independence Day. Bon, petit coucou à Aurélien qui, je pense, écoutera ce podcast. Oui. Pour l'arrivée des soucoupes volantes emblématiques, oui, il faut parler de la série V. Bon, s'il te plaît, tu peux libérer mes enfants. J'ai parlé de la série V.
Tonight is your chance to see how it all began, to relive the excitement that is V, the most extraordinary miniseries ever. A daring TV journalist struggling to uncover the startling truth behind the aliens' visit to Earth. And a beautiful and brave young scientist fighting for the very survival of the human race. Together, they take you on a fantastic journey to meet the visitors. Prepare yourself for a television event that's out of this world. Prepare for V. Next.
Là, on est vraiment sur une scène d'arrivée de soucoupe volante qui est quand même... qui tabasse quand même.
C'est très prenant, oui.
Mais bon, ça reste quand même au niveau de la forme, comme on le redit. Alors, on l'aura dit déjà tout à l'heure. Ça ressemble à quoi, la soucoupe volante ?
Un brûleur à gaz.
Un brûleur à gaz. Bon, ben, habituellement aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette génération-là de Ralph McQuarrie, c'est beaucoup de designers de science-fiction qui prenaient des objets de la vie courante, genre un fer à repasser et vous le transformez en vaisseau spatial. Et puis de toute façon, quand vous avez un vaisseau dans l'espace, il n'a pas besoin d'être aérodynamique. Ça n'empêche, quand vous êtes un geek de cinéma, un geek de SF, on a, on va dire, des petits biscuits. Alors, quand on a fini le film, parce qu'on l'a fini hein, tout à l'heure, hein, on a fait nos devoirs avant, et on fait le podcast dans la continuité, pour que ce soit frais. Et puis, tu me voyais regarder le générique, et puis d'arrêter toutes les deux minutes, et puis de noter, il y a des gens intéressants dans ce film. N'est-ce pas ?
Oui.
Et là, c'est le truc du... Vous avez le geek qui fait « Oui, mais alors Attel, t'as vu lui ? Il a fait ça !» Et l'autre ?
Ah oui, bah déjà, pour la musique. Oui,
la musique. C'est James Horner.
James Horner.
James Horner, il y a des moments... Donc, James Horner, hein, vous allez la voir, il a fait Bataille sous les étoiles. Vous aurez la colère d'Okan, vous allez avoir énormément de films. Et d'ailleurs, dans ce film, ça reprend énormément de partitions plus ou moins transformées de Star Trek 2. Vous avez le pom-pom-pom-pom-pom-pom qui est repris de Bataille sous les étoiles.
Coïncidence, je ne crois pas.
Un film, pour le coup, totalement nanar, dont nous avions parlé avec Dany dans un précédent épisode. Au niveau biscuit des geeks, on a le point qu'on va dire Star Wars. Parce que tout simplement, tout ce qui a été la direction artistique, c'est Ralph McQuarrie. Alors, Ralph McQuarrie, figurez-vous, c'est tout ce qui aura fait... C'est lui qui aura réalisé toute la réalisation artistique des Star Wars. Donc, Ralph McQuarrie, il aura œuvré sur Star Wars, un petit film. E.T. extraterrestre. Oh, bah tiens, comme c'est bizarre. Figurez-vous, quand vous regardez une certaine soupière, tu l'as appelé comment, toi, à la fin ?
Comment ? Le
vaisseau spatial.
Un brûleur à gaz, voilà.
Donc, et il a œuvré également sur Galactica. Bon, ce petit pépère, il nous a quittés en 2012 à 82 ans. C'est le type qui aura fait rêver des générations et des générations. Et oui, Cocoon est véritablement... On est dans l'écurie, tout ce qui a orbité autour de Lucas, autour de Spielberg. Ça, c'est des choses importantes. On a également un tout petit tube bizarre, parce que quand je vous ai dit les animatroniques qui m'ont fait arracher une larme, vous avez un certain Rick Baker. Rick Baker, oh, c'est trois fois et rien, évidemment. Et vous vous doutez bien qu'actuellement, je suis en train de chercher les informations. Ça s'appelle du meublage. Ce très cher Rick Baker, figurez-vous, il a eu sept fois l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Oh, vous l'avez vu dans Wolfman, La planète des singes en 2001. Alors, Rick Baker, vous l'avez trouvé dans le Loup-garou de Londres, La femme qui rétrécit, Vidéodrome. C'est lui qui a presque donné un visage humain à Christophe Lambert dans Greystoke, La légende de Tarzan, Bigfoot, Ellie Anderson, Gorille dans la brume, Ed Wood, Batman Forever, Professeur Folding, oui, ben là, il faut bien payer ses impôts. Fantôme contre fantôme, un film un peu oublié de Peter Jackson. Les Men in Black, Wild Wild West, oui, alors là, par contre, il avait dû prendre de la drogue. On est dans les années 80, on est dans les moments Amblin, on est dans une production, comme ils vous le mettent dans la bande-annonce française, fait par le réalisateur de Splash, avec les producteurs des Dents de la Mer. Ben oui, on est dans une production Zanuck. Je vais arrêter de faire du name dropping, mais voilà. Il y a du biscuit pour les petits geeks que nous sommes, parce que visuellement, il est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu en penses ?
Il est pas mal, ouais, surtout si on se dit que c'est 85.
Alors et oui, et en plus, il a eu deux Oscars. Aux Oscars, bah alors ça va être plutôt les Oscars 86. Il y aura le deuxième meilleur rôle pour Don Ameche et les effets spéciaux, donc ILM et de quarry, de maquillage, etc. Pour les effets spéciaux. On a fait le tour du film. Il y a aussi une tradition, c'est que est-ce que c'est un film qui a compté pour nous ? Est-ce que c'est un film doudou ? Est-ce que c'est un film qu'on a vu au cinéma ? Est-ce que c'est un film ? Est-ce que c'est un film qu'on a vu à un moment particulier ? Est-ce que il symbolise quelque chose pour nous ? Et là, maintenant, je te laisse la parole.
Alors moi, je l'ai vu, bah, j'étais petite. J'avais une dizaine d'années. Mmh. Et j'ai dû certainement le voir, je pense, sur... RTL, et c'est un film que je n'ai pas souvent revu, mais qui m'a laissé vraiment un souvenir assez important, parce que c'est vrai que ça questionne sur la fin de vie, les grands-parents, les aliens, c'est pas ce qui marque le plus finalement, c'est surtout ce qu'on, enfin, c'est ce qu'on devient ou ce qu'on, quand on meurt. Ou quand on n'est plus là. Qu'est-ce qui reste de nous ? C'est une pensée sur la vie, quoi.
C'est vrai que c'est un film qui est qui a plusieurs couches. Et pour l'avoir revu, alors moi je sais que en 85, je suis un petit peu plus vieux que toi. Donc nous il a dû sortir en 85, 86 en France. Je sais que je suis allé le voir au cinéma. Et je sais que je l'ai revu aussi à la télé, sur évidemment RTL Télévision. Mais si je ne me trompe pas, il y a eu une époque, il y avait une tradition où sur la télé française, notamment Feu Antenne 2, donc France 2, où tu sais, pendant les vacances ou pendant l'été, souvent les samedis après-midi, on se retrouvait avec un film. Et je sais qu'il y a eu Willow qui a été diffusé les après-midi. Avant que M6 en fasse hein, son cheval de bataille de diffuser des films quasiment toute la journée ou les après-midi, j'ai l'impression aussi d'avoir revu Cocoon comme ça. Je l'ai vu assez souvent. Bon, c'est vrai que je ne devais pas l'avoir revu. Ça doit bien faire une dizaine ou une vingtaine d'années que je ne l'avais pas revu. Fondamentalement, il a vieilli pour un certain nombre de choses. Les extraterrestres, quand ils sont sous forme d'anges qu'ils volent, ça ne passe pas. Par contre, quand ils sont au sol, ou la scène où ils essayent d'ouvrir la porte du KGB, où les petits vieux se sont réfugiés, qui fait un petit peu, comment dire, une scène à l'envers de E.T., je pense que tu en es d'accord. C'est vraiment la scène à l'envers.
Oui, oui, oui.
Là, ça passe. Il y a une tension. Il y a la scène rince l'œil. Vous voulez du striptease, ben on va vous donner du striptease intégral. Et après, il y a les moments quand même où voilà, il y a le money shot, la soucoupe volante qui arrive. Et c'est un moment. C'est qu'en fait, la fin. Leur scène de départ, la scène de fuite où on essaye de les arrêter pour partir, ça dure. À un moment, on se dit, voilà, quand ils annoncent qu'ils vont repartir, qu'ils remettent, les cocons au fond de l'eau. Oui, alors, on avait dit qu'on ne vous spoilait pas le film. Allez, essayez quand même de le visionner, essayez de le trouver. Il en vaut vraiment la peine. Voilà. Eh bien, il y a encore la scène où ils doivent prendre la fuite le soir parce que l'éclipse va arriver et puis ben, que leur chauffeur Uber interstellaire arrive. Et comme vous savez, le chauffeur Uber est là, ben, il n'attend pas. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est un film. Nous, on l'a... voilà. On va dire qu'on l'a légalement téléchargé. Vous pouvez le trouver très facilement, j'ai vérifié. Vous pouvez le trouver très facilement auprès des ventes par correspondance. Si je ne me trompe pas, vous pouvez encore le trouver quand dans certaines médiathèques qui ont des DVD, parce que ça reste quand même un classique. La dernière édition Blu-ray doit dater de 2018. Vous la trouvez pour vraiment pas très très cher sur... Une des grandes GAFAM. Donc, vous pouvez le trouver relativement facilement chez Amazon. Allez, disons le mot qui fâche. On est en 2024, vous allez me dire, on est à une époque du streaming. Ben, figurez-vous qu'actuellement, dans le monde, il n'est disponible sur aucune plateforme de streaming. Donc, eh ben, je vais faire un peu de publicité pour le support physique. Donc, petit clin d'œil à Mergreen avec Planet of the Tape. Oui, ben parfois, la galette, ça a du bon. Parce que vous n'arrivez pas à le trouver facilement. Nous sommes les parents de... À ton avis, ma voisine de canapé, est-ce que toi, tu vas le proposer autour de toi? Est-ce que tu vas le proposer? Toi, tu as encore la chance d'avoir des parents, est-ce que tu vas le proposer à tes parents? Et est-ce qu'ils l'ont déjà vu?
Alors, j'en ai parlé avec eux hier. Ils l'ont déjà vu, ils aimeraient bien le revoir.
Alors, je pense que je leur ferai un achat de galettes dématérialisées. Wink, wink, wink. Ne faites pas ça chez vous, cela est fait par des professionnels. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a à peu près arrivé au bout des choses. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est arrivé un peu à la fin de ce truc, le podcast, mes œuvres.
Oubliées, mais pas oubliables.
Voilà, vous voyez, je l'ai bien formé. Hein. Non, mais si ça continue, je pense que je vais lui laisser les micros. Eh bien, écoutez, on est arrivé au bout. Nous vous remercions, très chers auditeurs, de votre écoute. Je remercie une nouvelle fois ma voisine de canapé, d'avoir bien voulu m'accueillir dans ce milieu naturel.
Un canapé d'angle, on a de la place.
Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, comme c'est de tradition dans Entre Geeks, le podcast des œuvres.
Oublié, mais pas oubliable.
Eh bien, c'est l'invité qui choisit la musique. As-tu une sélection musicale à nous proposer pour ce film?
Alors, comme musique, je verrais bien la musique. Alors, je n'ai pas le titre exact, mais je pense que tu vas retrouver.
Oui.
C'est Street Dance. Mm-hmm. Avec...
Et là, c'est super. Tu viens de tuer les oreilles de nos 3 milliards d'auditeurs RIS.
Bah, la musique du film, tout simplement, parce qu'elle convient très très bien à l'univers.
Et puis, je pense qu'on trouvera bien quelque chose qui parle de Pâques, de lapins et d'œufs.
Oui.
Eh bien, écoutez, mes chers auditeurs, nous allons vous laisser. Et comme il est de tradition dans Galaxy Pop, 1, 2, 3. Galaxy Pop!
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.
and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, don't cheer up.
Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
As things happen to see, you know.
Always look on the right side of life.
What you got to lose, you know? You come from nothing, you go back to nothing. What you lost?
Always look on the right side of life.
Nothing will come from nothing. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Always look on the right.
Someone's
side
got to live as well,
life.
You know. Who do you think pays for all this rubbish?
Always look on
the money
right
back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money
always
back.
Look on.
Bonjour, bienvenue sur le répondeur de Dali. Vous êtes bien sur Galaxy Pop. Alors, si vous voulez connaître toutes les maximes de Galaxy Pop, les podcasts, tapez un. Non, je déconne. Mais laissez un message quand même. Voilà, bon, ça fait toujours plaisir. Sachez que les podcasts Galaxy Pop sont tous disponibles sur toutes les plateformes. Donc, Galaxy Pop, Constellation, Musique, patati et patata, vous trouverez. Si vous êtes un télémarketeur robot, ben on sait où le fric des IA passe. Si vous êtes un télémarketeur humain, tapez 2 et je vous enverrai un super câlin parce que franchement, c'est dur comme boulot et je suis sincère. Ah oui, j'oubliais. Si vous voulez entendre du bien de ma part de Cosmic Beast, tapez rien du tout parce que ça n'arrivera pas. Voilà. Bon. Allez, je vous embrasse. Il y aura sûrement un but à un moment. Et puis, tapez rien du tout. C'était pour rire.
We'll be right back.
Eh oui, ben Dany, voilà, nous venons de terminer notre podcast, donc on te faisait un petit coucou. Ben écoute, j'espère que tout va bien. Et puis, allez, tu nous as manqué. Bisous. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te parler.
Coucou Dany, ça y est, je fais partie enfin de la secte du podcast. Voilà, je fais des gros bisous, bon week-end.
Oh, Fiderzen, mais pense à revenir. Puis pense à refaire des podcasts avec moi. Bisous.
Galaxy Pop, la pop culture. Elle est belle, ma pop culture. Elle est fraîche, ma pop culture.
Galaxy Pop.
Eh, vous êtes sûr qu'elle sent fraîche?
Comment ça, elle est pas fraîche, ma pop culture?
Elle est belle, ma pop culture. Elle est belle. Venez, venez.
Elle est bonne, ma pop culture.
Galaxy Pop, viens. On va bien s'entendre. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bisous.